cerveau est fatigué, t'as l'envie pour nous de faire la vie. Ce triste, la vie serait moche. Alors, alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Monsieur.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître. Et sans publicité, Radio Libertaire, qui vit grâce au soutien de ses auditeurs, c'est 89,4 MHz et c'est l'émission Idéaux et Débats du jour qui commence. C'est la dernière émission de l'année, alors on s'est fait plaisir et c'est une émission un petit peu spéciale puisqu'on va quitter le champ de la littérature mainstream pour revenir vers notre amour de la science-fiction avec un superbe livre qui vient de paraître chez ActuSF, livre entièrement consacré à Alien, qui s'intitule Alien, la xénographie, qui a été concocté par Simon Rio et Nicolas Martin. Et c'est un vrai bonheur que de découvrir ce livre qui est extrêmement riche et qu'on attendait avec impatience. C'est un livre qui a été lancé au départ par une souscription qui a dépassé même les attentes des auteurs et qui est un. En plus d'être un beau livre, est un livre qui apporte plein de renseignements de toutes sortes concernant la série Alien, la série de films. Voilà, donc on va retrouver Nicolas Martin et Simon Rio pour évoquer Alien, la xénographie parue chez ActuSF. Et puis je vous donnerai en fin d'émission un peu plus de détails sur le contenu du livre, parce qu'on a beaucoup discuté au cours de cet entretien, mais ça ne vous donne pas forcément idée de ce qu'il peut y avoir dans ce livre que je vous recommande d'offrir à tous en cette période de fête. C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz et c'est l'émission Idéaux et Débats avec le plaisir aujourd'hui d'avoir deux invités ensemble puisqu'il s'agit de Nicolas Martin et de Simon Rioux car à notre plus grande joie a éclos le 18 novembre Alien, la xénographie et on est bien content de pouvoir en parler sur cette antenne. Alors pour moi ça a été un vrai plaisir parce que bon, j'attendais ce livre avec impatience. Et je dois dire que je n'ai pas été déçue parce que c'est un très beau livre qui va au-delà de même ce que je pouvais espérer parce que si on y retrouve tous les détails d'Alien, ça va au-delà de ça. Il y a même des textes de fiction, on sera amené à en parler. Il y a beaucoup de choses. Mais pour commencer, on va se replacer un petit peu dans le contexte. Alors moi, je suis d'une génération assez ancienne et j'ai fait partie, comme Christian Lehmann, de ces gens qui ont vu Alien à la sortie. Et le souvenir de cette projection d'Alien, elle est restée. Je me souviens précisément dans quel cinéma, à quel endroit je l'ai vu, parce que ça a été un événement que cette vision d'Alien, le huitième passager dans l'espace, personne ne vous entend crier. Et on va voir, Nicolas Martin et Simon Rioux, pourquoi Alien a été justement un phénomène, a été si déterminant en matière de cinéma de science-fiction, parce que si on se replace à l'époque, autant dans le domaine de la littérature de SF, on avait beaucoup évolué, beaucoup progressé, il s'était passé des tas de choses, autant dans le domaine du cinéma, c'était un peu plan-plan. L'espace était un lieu de western galactique, on était bien propre, on avait des beaux brushings, on était des beaux héros, et tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis, justement, est arrivé Alien, avec, comme le disait l'affiche, le fait que dans l'espace, on ne vous entend pas crier, parce que dans l'espace, on a peur. Alors, première question,
oui, vas-y,
la représentation de l'espace, en quoi Alien a apporté un changement dans cette représentation cinématographique de l'espace, de ce qui s'y passait?
Alors bah déjà, merci de nous accueillir dans ton émission et quelle chance, je dois dire que c'est avec une touche de jalousie que je commence, parce que quelle chance d'avoir pu découvrir ce film en salle comme Christian Lehmann le raconte dans la xénographie, c'est-à-dire sans savoir du tout ce qui allait te tomber dessus sans savoir ce que c'était. Et à une époque où, comme tu le disais très justement, les représentations de l'espace, elles sont très stéréotypiques. Les grands space opéras audiovisuels, c'est-à-dire au cinéma et à la télévision, c'est Star Wars et Star Trek. L'espace, c'est la nouvelle frontière, c'est un nouvel espace de colonisation. C'est ni plus ni moins qu'une extension du Far West. Et d'un seul coup, il se passe cette chose qui s'appelle Alien, le huitième passager. Et je crois qu'effectivement, mais tu es mieux placé que moi pour le dire, ça a été un véritable choc pour beaucoup de spectatrices et de spectateurs qui se sont rendus au cinéma et qui ont découvert d'un seul coup que l'espace, ça n'était plus du tout ces grands territoires qui n'attendaient que la bonne parole du colon américain pour venir civiliser ces contrées étranges et inconnues, mais qu'au contraire, c'est un espace terriblement inquiétant, lovecraftien, pascalien, le silence éternel de ces espaces infinis mais frais, et qui est peuplé de créatures qui n'ont rien à voir avec nous, qu'on ne comprend pas, qui sont étrangères, qui sont aliens, puisque Alien, avant d'être cette créature, Alien, c'est un adjectif qui veut dire étranger, ce qui est différent de nous, à tes souhaits. Ce mot est un peu enrhumé, c'est l'époque qui veut ça. Et donc, oui, c'est effectivement un film proprement révolutionnaire dans ce qu'il change la façon de représenter l'espace, la façon de représenter et la place de l'être humain dans l'espace. Et puis, c'est surtout un film révolutionnaire à plein d'autres égards, dans le sens où, déjà évidemment, le plus évident et le plus simple, c'est la présence de ce personnage féminin qui est non pas une héroïne, mais qui est en tout cas la seule personne qui s'en sort, le personnage central d'un film grand public d'action. Donc ça, c'est déjà aussi une grande révolution politique. C'est un film qui ne présente pas des héros, qui ne présente pas des militaires, qui ne présente pas des surhommes, mais des prolétaires, ouvriers de l'espace, des soutiers. Encore une fois, le premier dialogue qui ouvre Alien, c'est un dialogue où Parker et Brett vont discuter de leurs primes, parce que eux, eh ben, sont des mécanos et ils voudraient bien avoir les mêmes primes que leurs petits camarades qui sont commandants ou pilotes. Et puis, c'est surtout un film où il y a évidemment une grosse bébête très méchante qui veut détruire les êtres humains, mais où tout compte fait, le vrai méchant dans l'histoire, c'est pas tellement cette bébête qui juste utilise l'être humain pour modifier ses cycles de vie, pour perpétuer ses cycles de vie, mais le vrai méchant, c'est la compagnie, c'est le capitalisme qui dit bien que ces corps de prolétaires, eh bien, ils peuvent être utilisés et détruits à l'envi tant qu'on arrive au bout à satisfaire ses intérêts militaro-industriels.
Et pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Alien, il y a eu donc ce premier film qui est donc sorti à la fin des années 70, qui était fait par Ridley Scott, qui est donc Alien, le huitième passager en français. Et puis, il y a eu ensuite Alien 2, le retour, il y a eu Alien Cube, il y a eu la résurrection, et il y a eu ensuite des préquels qui ont pu sortir, et puis tous ceux avec Predator, mais qu'on n'aura peut-être pas le temps d'évoquer, et que les auditeurs pourront découvrir en lisant Alien, la xénographie, qui est paru chez ActuSF. Mais pour revenir donc à ce cycle Alien, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point ces films sont un peu comme des poupées russes, dans la mesure où la sensation ressentie au premier visionnage, c'est une sensation d'effroi, de peur, d'être confronté à une situation d'horreur dans l'espace. Et puis après, quand on y repense ou qu'on le revoit, il y a d'autres choses qui apparaissent. C'est ce que tu évoquais, c'est effectivement le fait que ce sont des prolétaires de l'espace, unissez-vous pour avoir vos primes alors que vous êtes un petit peu déclassés. C'est la dimension de la grande entreprise, tout ça on va y venir. Et puis il y a aussi ce que tu évoquais qui était la place de l'humain. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce que moi, je suis une grande dickienne. Et que Dick s'est quand même acharné dans son œuvre à définir l'humain. Et dans Alien, c'est un petit peu la même problématique, de savoir où est l'humain, qui est l'humain. Parce qu'il y a, des humains, il y a des prolétaires et puis des gens un petit peu au-dessus, et puis il y a ceux des multinationales, il y a des créatures, les aliens, qui sont donc ces monstres, il y a des androïdes et il y a un chat. Et toute la question va être de savoir où se situe la frontière ? Qu'est-ce que l'humain là-dedans ?
Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ta question, ce qui est pertinent, je trouve, c'est que ça nous amène peut-être, avant d'aborder les grands concepts et les grandes révolutions qu'engendre le film dans la manière d'appréhender tant l'humain que l'espace, sur ce que sont ces avancées, ces lignes de rupture en pure matière de cinéma. Parce qu'il faut bien voir, c'est que si Alien a été un tel succès, s'il a bouleversé autant les spectateurs, c'est bien sûr pour ce qu'il raconte, mais c'est surtout comment il le raconte. Et là, il faut revenir à la mise en scène de Scott. C'est-à-dire que ce qui est passionnant, c'est la manière dont Scott va filmer son décor, qui est à la fois un décor extrêmement esthétisé quand on est dans les laboratoires, dans certaines coursives, mais qui est également presque naturaliste quand il filme là où bosse notamment Brett et son comparse, c'est-à-dire dans des coursives suintantes qui ressemblent à une gigantesque fonderie, et comment il met en scène les corps humains là-dedans. Comment il met en scène les corps humains, comment il différencie très peu, mais de manière notable, le corps des humains et celui de l'androïde, de H, qui est un humain artificiel et dont le comportement va être extrêmement intéressant à analyser. Et enfin, comment il filme l'alien. Parce qu'il y a une d'habitude, on va dire, jusqu'à présent, il y avait dans le cinéma fantastique ou d'horreur un choix, qui était le champ ou le hors-champ. Il y a plein de films d'horreur, série B ou pas, mais souvent série B, qui vont filmer la grosse bébête, le gloumout, plein cadre, parce que c'est ce qui a coûté de l'argent, c'est ce qui a demandé d'amener des équipes d'effets spéciaux, donc il faut en donner aux spectateurs. Et puis il y a Jacques Tourneur, la féline, l'école du hors-champ, qui renvoie hors le cadre l'horreur ou le surnaturel, et qui laisse donc aux spectateurs le soin de travailler et de greffer en quelque sorte dans l'image ses propres inquiétudes, ses propres angoisses, ses propres névroses. Ce qui est passionnant, c'est que Ridley Scott, en fait, il va trouver une voie médiane, une troisième voie. On peut pas dire que l'alien soit hors-champ. C'est pas vrai. Il y a quantité de plans dans lesquels il apparaît. Mais on peut pas dire qu'il soit plein cadre. C'est-à-dire que la manière dont il va composer ses plans, ce qu'on appelle le découpage, mais aussi le montage, vont éclater en permanence la physionomie de la créature et rendre sa physiologie impossible, incompréhensible, inquiétante. C'est ce qui fait que c'est à la fois un animal, à la fois une machine, à la fois une altérité radicale. Et c'est bien dans cette manière-là de filmer l'antagoniste, le monstre, que s'engendre, qui est généré une nouvelle forme de peur. Et c'est bien pour ça qu'on parlera de Space Horror. Et c'est bien pour ça que tout ça est assez riche, justement, pour permettre aux thématiques sociétales, humaines, économiques presque, du film de Scott de s'exprimer.
Oui, et puis moi, je rajouterai un truc pour aller dans ton sens. C'est vrai que si on cherche un fil conducteur et une sorte de fil thématique ou narratif à travers les quatre premiers films et les deux préquels de Ridley Scott, c'est qu'il y a effectivement là-dedans, et notamment dès le premier, une vraie interrogation sur qu'est-ce qui nous rend humains et qu'est-ce qui nous permet de rester humains face à la monstruosité, que ce soit la monstruosité de la bête, de la créature, ou la monstruosité du capitalisme et du plan effroyable qui est celui de la destruction de toute vie ou de tout corps à des profits financiers ou militaro-industriels. Et c'est bien ça qui fait que Ripley s'en sort dans le premier. C'est qu'elle est plus humaine que les autres. C'est pour ça qu'elle se raccroche. Et parfois, on nous pose la question de se dire mais pourquoi est-ce qu'elle court après le chat ? Mais parce que le chat, c'est précisément le dernier élément d'humanité qui lui permet de se raccrocher à quelque chose de l'ordre de la santé mentale avant de devenir complètement folle, puisqu'elle vient de voir tous ses amis mourir, elle vient de brûler celui dont on suppose qu'il a été son amant au lance-flammes dans une espèce de gang de chair et de métal. Donc elle devient complètement folle et elle se raccroche à l'humanité. Et tout au long de ça, ce sera la même chose finalement dans le deuxième, où son humanité sera le lien qu'elle a noué avec cette petite fille. Dans le troisième, ce sera... au contraire, de réussir à rester une femme humaine dans cette population de psychopathes. Dans le quatrième, ce sera garder sa part d'humanité alors qu'une partie de la bête est dans son code génétique. Bref, et puis dans les préquels de Ridley Scott, il va lui aussi interroger la conception de l'humanité pour ces créatures qui sont des enfants, littéralement, puisque c'est le début d'Alien Covenant, hein, des enfants, des êtres humains, mais sans être des êtres humains, qui sont les androïdes, et qui, eux, contrairement aux êtres humains, n'ont pas la possibilité de se reproduire. Donc il y a effectivement une grande interrogation et un grand geste d'interrogation sur qu'est-ce qui nous constitue en tant qu'humains face à la monstruosité, quelle qu'elle soit, que ce soit encore une fois la monstruosité pure et brute de cette créature qui est une créature parfaite et destructrice, comme l'a décrit H dans le premier, que ce soit la monstruosité des plans capitaliste de la compagnie Weyland-Yutani, ou que ce soit d'une certaine forme la monstruosité d'un père qui délaisse ses enfants androïdes, en les laissant, en faisant des moins qu'humains, quoi. Mm-hmm. Et ça, je pense que là-dessus, effectivement, tu touches du doigt quelque chose d'essentiel qui fait que cette série de films nous touche autant et à ce point-là est si importante à nos yeux et dans notre imaginaire collectif.
Oui, tout à fait. Et puis, bon, comme tu l'évoquais, Nicolas, au début de cet entretien, le tout repose sur le personnage de Ripley, qui est une femme, ce qui ne devait pas être le cas au départ. Elle a été choisie pour tenir le rôle principal. Et c'est d'autant plus important que quand on prend les quatre aliens, hein, si on met de côté les préquels, c'est la seule véritable femme qui est à la distribution. Parce que dans Alien, le huitième passager, il y a Lambert, l'autre personnage féminin, mais on apprendra ensuite qu'elle a subi une réassignation sexuelle à la naissance, qu'elle n'est pas vraiment femme. Et puis, l'autre personnage féminin, superbe et magnifique, Cole, est en fait un androïde.
Il y a Vasquez quand même dans Alien, oui. Dans le 2.
Oui, oui.
Un magnifique personnage lesbien, oui, mais... de femme puissante. Et oui. qui met une petite fessée à tous les gros Marines gonflés aux stéroïdes et qui montre qu'elle est plus courageuse et surtout dans la façon, sans spoiler quoi que ce soit, dans la façon dont elle va malheureusement terminer son existence en montrant qu'elle est quand même autrement plus courageuse que tous les hommes qui sont autour d'elle.
Mais c'est un mec.
Ah ben Vasquez, c'est une femme, physiologiquement.
Oui, oui, hein. Oui, tout à fait.
Yeah.
Mais c'est vrai que ce personnage de Ripley, qui est une femme, va relancer aussi toute la question qui est sous-jacente, qui est la question de la maternité. Parce que la mère, symboliquement, est extrêmement présente sous toutes ses formes dans la série Alien. D'abord parce que l'intelligence artificielle du vaisseau s'appelle Mother. Et qu'au départ, on lui demande de raconter une histoire, donc un rôle très, très maternel. Ensuite, Ripley, elle va perdre sa fille et elle va trouver une fille d'adoption. Et puis ensuite, elle va devenir elle-même mère de la créature. Donc la maternité est un des piliers aussi de l'histoire d'Alien.
Alors, oui, c'est un des piliers, mais c'est un pilier, on pourrait dire, contrarié. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve passionnant, c'est que si Ripley est une femme, ça n'est pas une femme au sens tel que l'entendait Hollywood jusqu'alors. C'est-à-dire qu'elle ne sera jamais caractérisée par ce que furent et ce que sont encore, pour beaucoup, les caractérisations de personnages féminins dans le cinéma américain, et pas qu'américain. C'est-à-dire qu'elle n'est pas définie par une attraction amoureuse, elle n'est pas définie par un désir de maternité ou par un enfant à protéger, en tout cas, pas a priori, ça n'est pas dans sa donnée de départ. Et au contraire, ce qui d'habitude constitue et fonde le personnage féminin du cinéma commercial, là, on le renvoie à la bête, et la bête qui est elle-même une extension symbolique de la société capitaliste. C'est la bête qui féconde, c'est la bête qui fait grandir un fœtus, un embryon prédateur dans des corps humains, et finalement, si Ripley va devenir une mère, c'est une mère symbolique et une mère adoptive. Quand la maternité, enfin, quand littéralement elle se retrouvera enceinte, c'est d'une reine alien. Et donc la saga travaille aussi à disjoindre les attendus des personnages féminins et ce personnage féminin qui est Ripley.
Oui, tout à fait. Et ce personnage féminin n'est effectivement pas le personnage hollywoodien typique parce que on la voit dans des situations qui, le moins qu'on puisse dire, ne la mettent pas en valeur et ce n'est pas non plus une blondasse qui crie comme dans beaucoup de films de SF au préalable ou de films d'horreur.
Absolument. Et il y a une séquence qui est très intéressante à ce niveau-là. C'est dans la toute dernière séquence du film, du premier, où elle se retrouve, on pourrait dire, presque nue, et où pourtant Scott réussit à ne pas sexualiser, à ne pas érotiser ce corps. Nicolas me fait bip-bop de la tête.
Non, très peu, mais enfin, je veux dire, c'est évidemment pas ça. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de cette scène, mais, parce que c'est une question qui revient souvent quand on fait des projections, et où on nous dit, mais en même temps, à la fin, on la montre en petite culotte.
Oui, néanmoins, regardez la valeur des plans, oui, du cadrage, on n'est pas en train de nous dire,
regarde. Par ailleurs, le film commence avec tout le monde qui est en petite culotte et tous les gens qui se réveillent et les mecs qui sont aussi en couche, même, c'est pas très sexy. Mais non, mais effectivement, il y a ce mini-slip et ce truc qui est effectivement assez, objectivement, qui pourrait être considéré comme assez sexy. Mais ce qui est intéressant dans ce plan-là, c'est que c'est pas tellement un plan qui se veut érotique d'une femme en train de faire mousser son shampoing sous la douche. Et en t-shirt mouillé.
En fait, on observe pas ses mensurations, voilà. On constate sa vulnérabilité. Voit,
c'est exactement ça.
Et pour la première fois, on a un corps humain, on a de la chair humaine face au xénomorphe.
C'est ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle est totalement vulnérable. Elle n'est pas nue, mais elle est symboliquement nue face à d'un seul coup la créature qui est devant elle. C'est-à-dire que d'un seul coup, et c'est un élément de trouille qui est absolument merveilleux et passionnant. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle est littéralement mise à nu devant la créature qui est en train de se réveiller, dont on ne sait pas si elle l'aperçoit, si elle l'aperçoit pas, et elle va être obligée de se remettre une carapace qui est la combinaison pour pouvoir l'affronter, pour pouvoir se protéger. Mais pendant quelques instants, c'est vraiment, on livre un corps nu à la bête, et ça, c'est une tension, non pas érotique, mais une tension terrifique, absolument merveilleuse, des extraits chagrins pourraient vous dire, oui, Eros et Thanatos, tout ça, certainement qu'il y a une touche aussi, et ça aurait été certainement la même chose avec un homme en slip blanc par ailleurs.
Mais c'est pas ce qu'on pourrait appeler ce qu'on appelle aujourd'hui du male gaze.
Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec Simon Rio à mes côtés.
Oui, et puis ce qui caractérise Alien, toujours pour nos auditeurs qui peut-être n'ont pas vu la série, c'est ce jeu aussi sur comment faire naître l'effroi, j'allais dire, de l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire partir d'une situation ordinaire, banale, et la faire déraper. L'exemple typique, c'est ce repas qui est pris une fois de retour de la planète, on est soulagé, le facehugger a été enlevé, on prend un repas avant de retourner en cryostase, et là, c'est l'effroi total. Et à chaque fois, on est dans ce
types de mécanismes, c'est-à-dire comment des situations ordinaires vécu par des gens ordinaires. Il y a un truc aussi qui est assez spectaculaire quand on voit les films, c'est de voir à quel point ils peuvent fumer dans l'espace.
Littéralement dans tous les films.
Ouais, ouais.
Même dans les deux préquels, il n'y a pas un seul film où quelqu'un ne fume pas.
Et ça les rapproche de nous, ça en fait des gens ordinaires comme nous. On peut encore mieux s'identifier, puisque c'est des gens qui bossent, qui parlent de leur salaire, qui sont habillés de manière totalement normale, dans des lieux un peu cradingues et en train de bouffer des céréales, en fumant une cigarette, quoi. Donc, c'est des gens comme nous.
Moi, perso, je ne fume pas au petit déjeuner. Mais enfin,
moi non plus. Mais en tout cas...
Vous
n'avez
pas ce que vous loupez.
En tout cas, on est plus proche d'eux qu'on ne l'est de Luke Skywalker, par exemple.
Ah mais ça, c'est le kimono qui change tout. Non, mais indiscutablement, c'est-à-dire que c'est intéressant que vous mentionniez Star Wars parce que il est évident que Star Wars est aussi une grande mythologie contemporaine. Néanmoins, on voit bien la différence quand on compare les deux objets cinématographiques de Star Wars et d'Alien. C'est-à-dire que Star Wars, finalement, qu'on aime ou d'ailleurs qu'on n'aime pas la mythologie ou la première trilogie ou tous les autres, peu importe, si on se passe à la même époque, Star Wars nous raconte quoi ? Star Wars nous raconte une histoire classique de l'élu, c'est-à-dire...
C'est le gros mythe comparatif campbellien.
Voilà, pour le dire avec des mots intelligents, c'est-à-dire ce jeune homme qui va découvrir qu'il a un destin, finalement, qui le dépasse, qui est immanent, qui lui tombe dessus, voilà, il va rejouer les grands topos du drame antique, il va être obligé de tuer son père, hein, ça a été fait mille et mille fois, etc. Alien ne nous raconte pas du tout ça, le premier Alien n'est pas du tout dans une geste héroïque. Qu'est-ce qui se passe dans le premier Alien ? Ripley n'a pas des super pouvoirs, elle ne va pas découvrir à un moment donné qu'elle est supérieure au reste du monde et que c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir renverser l'ordre établi. Aucun ordre établi n'est renversé, aucun empire ne tombe, Ripley n'a pas de pouvoir particulier. Pourquoi elle s'en sort ? Simplement parce qu'elle est plus intelligente et qu'elle est plus maligne que les autres. Point barre. Ce qui va ensuite effectivement un peu changer dans le film de Cameron, mais dès le départ, on voit bien que là, on n'est pas en train de rejouer du drame classique, on est en train de réinventer en plus une forme narrative qui est une forme, alors ensuite du survival qu'on a pu voir ailleurs, mais plutôt dans des films teintés horreur, ce qui est Alien, mais cette fois-ci transposé à l'espace. Et les survival avant, bah, c'était plutôt Burt Lancaster.
C'est Burt Lancaster, hein. Tu penses à Deliverance ?
Ouais.
Ouais, non, c'est pas Burt Lancaster, mais oui, il y a Bad Boys.
Donc voilà, le survival, il existait évidemment avant, on peut penser à Deliverance, mais c'est du cinéma de guerre, et puis c'est toujours l'homme plus musclé. C'est toujours l'homme plus musclé qui va s'en sortir parce qu'il a des plus gros muscles et parce qu'il va pouvoir décocher quelques coups de tatane aux hillbillies dégénérés et finir par s'en sortir et sauver sa couenne. C'est pas du tout le cas ici, et ici c'est vraiment une femme qui s'en sort parce qu'elle est plus forte, parce qu'elle est plus intelligente.
Mmh. Oui, et il faut questionner la notion de s'en sortir, c'est-à-dire que ce que va nous raconter concrètement Alien, c'est primairement des gens qui sont pris au piège de ce système capitaliste qui, dès le début, dès l'ouverture, nous montre des corps qui sont totalement réifiés. C'est-à-dire que le système est allé à un point où nos personnages, nos ouvriers, vont tout simplement être réveillés par la machine, par Mother. On est à un moment où les ouvriers n'ont même plus le contrôle des fonctions primaires, essentielles de leur anatomie. Ils sont totalement contrôlés par le système, à tel point qu'on peut manipuler leur corps à l'envi, qui devient une matière première. Et d'ailleurs, à la fin, on ne peut pas dire que Ripley triomphe. On peut dire que Ripley survit, mais ce survie n'est possible qu'en disparaissant dans l'oubli. Comme le disait Nicolas, il n'y a pas d'ordre établi à écraser, il n'y a pas de système à combattre. Elle ne pourra pas combattre le système. Elle ne peut qu'espérer que son corps ne soit pas tout à fait détruit.
Thank you.
C'est vrai que cette compagnie dont l'unique intérêt est de ramener les créatures au prix des vies humaines, puisque ce qui compte, c'est effectivement la merveille que représente l'alien, ce xénomorphe, c'est en permanence, et d'un film à l'autre, c'est ce pouvoir d'oppression. Alors, les préquels vont donner une dimension un peu autre, avec une espèce de volonté mystique de retrouver un créateur ou pas, désir d'immortalité, beaucoup de choses qui vont émerger derrière. Mais dans les quatre aliens, en tout cas, c'est vraiment l'oppression de l'humain par la multinationale.
Oui, absolument. Mais alors, quand bien même, je souscris tout à fait à l'idée que les deux préquels vont emmener la saga sur un autre terrain, sur une autre angoisse eschatologique ou existentielle, néanmoins, il me semble qu'il y a aussi une très très grande cohérence dans la manière dont c'est là où commence l'inhumanité ou l'artificialité que naît cette oppression systémique et que naît la possibilité du néant et d'une destruction froide et machinique. Et là-dessus, le rôle de David, qui est interprété par Michael Fassbender, oui, aussi bien dans Prometheus que dans Covenant, moi me paraît passionnant parce qu'on n'est pas face à un anti-héros, on est face à quelque chose qui est encore bien plus rare, que ce soit en littérature ou en cinéma, qui est un héros négatif, c'est-à-dire un héros dont l'accomplissement est un accomplissement de destruction. Et ça, c'est assez passionnant, parce que c'est là où on voit comment a évolué la misanthropie de Scott, qui en est à un point où ça n'est plus qu'il n'a pas beaucoup d'empathie pour ses protagonistes, c'est que l'humanité de ses protagonistes est à ce point viciée que lui va pouvoir, ou plutôt souhaite travailler, un personnage d'androïde qui s'intéresse et qui cherche une transcendance, qui cherche quelque chose, qui est le dernier, le seul des personnages de ces deux films qui se pose la question de la création, qui se pose la question de ce qui transcende. Et par conséquent, je trouve qu'on est là face à certes un autre pan d'angoisse, un autre pan de réflexion existentielle, mais que je trouve finalement extrêmement cohérent avec l'œuvre première qui est le 8e passager.
Mais tout à fait, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. C'est le message global de l'ensemble des films.
Oui, tout à fait. Le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit, et surtout, c'est un monstre des passionnés. C'est-à-dire qu'il y a un peu de coutume de dire qu'au cinéma, jusqu'à présent, il y avait les monstres de droite et les monstres de... Enfin, les cinémas de monstres de droite et les cinémas de monstres de gauche. De droite, ben, c'est quand le monstre est, on va dire, une altérité horrible qui veut nous dévorer. C'est tout le cinéma angoissé par la guerre froide, paranoïaque et anti-soviétique des années 50-60. Puis, il y a le cinéma fantastique de gauche où le monstre est généralement causé par l'humanité ou l'inhumanité des hommes et n'est que le fruit de nos ratages et de nos grands problèmes de société. C'est le cas d'un massacre à la tronçonneuse, par exemple. Il me semble que là, on est face à quelque chose qui est, c'est un terme qu'on a déjà, je crois, mentionné plusieurs fois avec Nicolas depuis le début de cet entretien, c'est l'altérité radicale. C'est une toute autre façon d'être au monde que nous ne pouvons pas exactement comprendre et qui est dépassionnée parce que l'alien n'est ni une créature que nous aurions maltraitée et qui par conséquent se retournerait contre nous, ni une entité démoniaque. C'est un principe mécanique, froid, désincarné, qui ne nous envisage, à la manière de la Weyland-Yutani, la compagnie qu'on retrouve dans tous les films, qui ne nous envisage que comme un matériau brut. Il n'est pas là pour assouvir sa faim, d'ailleurs il ne mange pas les humains, il n'est pas là contre nous, il n'a pas d'intentionnalité néfaste. Nous ne sommes qu'un des éléments qui entre en équation avec les modalités de son existence. Alors, oui, ce qui est passionnant surtout, c'est que c'est encore une fois, c'est une étrangeté radicale. C'est-à-dire que je suis pas tout à fait d'accord avec l'inquiétante étrangeté que tu mentionnais tout à l'heure. Alien, c'est un cycle de vie radicalement différent d'une autre. C'est un mode de reproduction. C'est un mode de prédation. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne nous ressemble absolument pas. On ne sait pas ce qu'il fait, cet alien, en fait. On ne sait pas exactement ce qu'il nous fait. Nous, on est juste une étape où le vivant est une étape dans son cycle de reproduction. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, on va apprendre ensuite, dans les préquels, la nature, c'est-à-dire, je ne vais rien révéler ici, mais en tout cas, ce qui préside au début de son existence. Mais en vrai, au début, dans la première tétralogie, on ne sait pas ce que c'est que cette créature. On n'en a aucune idée, on n'en aura aucune idée, on ne sait pas ce que c'est, et c'est ça qui est passionnant.
Et on s'en fout.
Quand on arrive sur la planète L426, on ne sait pas ce que c'est que ce vaisseau en forme de fer à cheval,
on ne sait pas ce que c'est que cette créature qu'on appellera le Space Jockey. C'est-à-dire qu'il reste plein de blancs et il reste plein de trous dans la mythologie. Et c'est dans ces trous que l'imaginaire s'engouffre, en fait.
Tout à fait.
C'est ça qui est absolument passionnant. C'est l'alien, c'est l'autre, c'est celui qui est radicalement différent de nous.
Alors, je reviendrai sur ce que tu as dit, Simon, parce que tu faisais le parallèle entre, effectivement, la compagnie et l'alien en disant que tous les deux ont le même mécanisme. Il y a une différence, c'est que l'alien agit pour lui, mais la compagnie a une intentionnalité de départ, de détruire l'homme pour en faire du profit. L'alien, il s'en fout, il est là, il fait ce qu'il a envie de faire. Je pense que la notion
d'instinct... Et tu as tout à fait raison quand tu dis ça. Quand je fais un parallèle, c'est que quelque part, de manière sans doute inconsciente, pour la compagnie, l'alien est l'espèce d'expression aboutie d'elle-même.
C'est la perfection. C'est la perfection.
Voilà, et c'est ce que dit Ash d'ailleurs. Cette créature est parfaite et you have my sympathies. Et tout simplement, bien sûr que pour des raisons, on va dire, scénaristiques et de cohérence, on nous présente la compagnie comme cherchant l'alien à des fins économiques, pécuniaires et pour créer de l'armement. Mais je crois aussi qu'il y a un pur mouvement de fascination. C'est-à-dire qu'elle veut s'allier à cette créature parfaite. Et c'est peut-être justement parce que la compagnie, elle a une intentionnalité, elle a encore une réflexion humaine, propre humaine, qu'elle ne pourra finalement jamais ni mettre la main, ni véritablement maîtriser le xénomorphe, parce que lui, justement, est dénué jusqu'à ce qu'il reste d'humanité dans le système capitaliste de la compagnie.
These were very, very hard to come by.
So was our cargo. Whatever you got going on here ain't exactly approved by Congress.
It's a military operation.
Really?
Who are you?
Ripley Ellen, Lieutenant First Class, number 36706.
Ellen Ripley died 200 years ago. You're a thing, a construct. They grew you in a lab.
What the hell is going on here?
He is breeding an alien species.
Wish you could understand what we're trying to do here.
Now they brought it out of you. Not all the way out.
You want to tell us what this is?
It's a queen. She'll breed. You'll die.
Ripley died trying to wipe the species out. I'm not anxious to see her taking up her old hobby.
I can feel it. I can hear it moving.
So hey, you like ran into these things before?
Yeah.
What did you do?
I died. We're moving.
That's a standard emergency procedure.
Any serious problem and the ship autopilots back to home base.
What's home base?
Earth.
Donc d'Alien, la xénographie, Simon Rio, Nicolas Martin, je pense qu'il faut évoquer, parce que là on est dans un débat très passionné, il y a encore plein de choses à évoquer, mais il est peut-être utile de préciser quand même tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre, parce que c'est un livre qui est très très riche. Donc il y a énormément de contributeurs qui ont participé.
Nous sommes 33 au total.
J'ai pas compté, d'accord. Comment ça s'est bâti cette histoire ?
Eh bien, tout simplement, c'est d'abord notre éditeur, Jérôme Vincent, qui est venu nous chercher, on se connaissait déjà depuis un petit moment, pour nous dire, mais moi, j'aimerais bien vous entendre, j'aimerais bien vous lire sur la saga Alien. Notre premier réflexe, ça a été de lui dire, mais il y a déjà eu tellement d'ouvrages, et souvent des ouvrages assez passionnants sur la genèse de la saga, qu'on se sent pas, nous, de faire mieux, et on se sentirait assez mal de proposer une espèce de fiche Wikipédia avec une jolie couverture pour Noël. C'est pas ce qu'on a envie de faire, nous, en science-fiction, et ni comme journaliste, ni comme auteur. Et en revanche, en parlant, en en discutant, on s'est rendu compte, on va dire, de ce que les films Alien avaient laissé en nous, du substrat mythologique, philosophique, intellectuel qui nous restait d'Alien. Et on a commencé à se dire qu'on connaissait en fait pas mal autour de nous de consoeurs, de confrères, mais aussi de gens dans plein d'autres spécialités, pas forcément liées à la science-fiction, que ce soit dans la philosophie, dans les sciences, dans la physique, dans la littérature également, qui avaient été profondément marqués, dont la pratique était, on va dire, descendante directement de cette œuvre. Et on s'est dit, tiens, on aimerait les entendre sur tel angle, sur tel aspect, sur tel sujet. Et en gros, l'idée était plutôt de faire une cartographie de l'héritage, du leg, de la saga, de comment elle agit en nous, et de comment elle croit, et dans nos esprits et dans nos corps.
Oui, alors ça donne un ouvrage extrêmement riche qui est paru aux éditions ActuSF, avec beaucoup d'articles absolument passionnants, et puis des textes de fiction à la fin. Et moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant de terminer la dernière partie du livre sur ces textes de fiction, avec même le dernier mot du livre qui est Ripley. Alors, ça a été un choix aussi de faire appel à des auteurs, d'excellents auteurs, pour introduire de la fiction dans Alien la xénographie.
Oui, oui, c'était quelque chose qu'on voulait depuis le départ. Hein. C'est-à-dire que quand Jérôme m'en a parlé, moi, j'ai tout de suite dit il faut qu'on ait une dernière partie qui soit où on propose à des autrices et à des auteurs de SF, mais pas uniquement, hein, parce qu'il y a un très beau poème
de Chloé Delhomme,
oui, bien sûr. Voilà, qui ouvre cette partie, et parce que c'est aussi une façon de dire que nous ne sommes pas en train d'examiner une mythologie dont l'histoire s'est achevée, qui est conclue. Nous ne sommes pas en train de faire de l'archéologie culturelle ou cinématographique, mais nous sommes en train de parler d'une mythologie qui est vivante, qui est bien vivante, qui nous habite encore tous et dont l'univers est encore fécond. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai proposé, notamment à Catherine Dufour, à Jean Barré, à Grégoire Courtois et à un petit auteur peu intéressant, mais bon, je me suis dit, on sait jamais, qui s'appelle Nicolas Martin, de proposer.
Ah, mais c'est moi, je suis sûr que c'est un
homonyme. Non, c'est un homonyme. Ah, non, c'est pas vrai, c'est moi.
À la fin du livre.
Mais voilà, je trouvais ça effectivement amusant et c'est rigolo, oui, que. J'ai mis un peu ma nouvelle à la fin, plus par souci de modestie, d'humilité ou d'imposture, appelez ça comme vous voulez. Oui, c'est amusant de se dire qu'effectivement, alors en même temps, c'est un peu un spoiler, hein, mais que le livre se conclut par les mots Hélène Ripley. C'était pas tout à fait intentionnel, mais maintenant que vous le dites, je pense que ça devait être inconscient.
Oui, enfin, ça spoil pas grand-chose. Hélène Ripley est quand même très présente dans le livre.
Ouais, bien sûr.
Même si non, on parle d'elle.
Que ce soit elle qui conclut symboliquement, le bouquin. Oui, j'y avais pas pensé.
Mais c'est vrai que, par contre, on la retrouve très peu avec son prénom, parce que c'est Ripley.
Mais d'ailleurs, dans le premier long métrage, on ne connaît pas son prénom.
Mais non.
Il nous sera donné assez tard dans le deuxième film.
Et son prénom, on l'a revu là pendant les projections. Son prénom, enfin, on l'avait revu avant, mais ça a été confirmé. Mais même pas au générique.
Ah ouais.
C'est-à-dire qu'au générique de fin, il y a marqué Ripley, Sigourney Weaver. Il n'y a pas marqué Hélène Ripley. Et d'ailleurs, il y a marqué que Ripley, Dallas, Lambert, Parker, ils n'ont pas le prénom, ce qui est aussi intéressant dans le discours qu'on peut avoir.
Ah, sur... ça déshumanise complètement. Oui. On va évoquer quand même la créature, on va évoquer le xénomorphe, parce que ça aussi, ça a été un élément très, très important lors de la projection et de la sortie du premier film. C'est que un monstre comme celui qui a fait Giger, on n'en avait jamais vu. Et il faut préciser qu'à l'époque, pour nos éditeurs, les effets spéciaux, c'était quand même très restreint.
Alors, je ne serais pas tout à fait d'accord pour dire que les effets spéciaux étaient restreints, parce qu'il y avait plein de choses, il y avait plein de possibilités. Ouais. Il y avait le stop motion, donc c'est-à-dire l'animation image par image, dont Ray Harryhausen a fait les
histoires.
Il y a les matte painting, il y avait le latex, il y a le maquillage. Il y avait le peinture sur pellicule, hein, l'explosion de finale, c'est de la peinture sur pellicule. Donc c'est pas vrai qu'il y avait toute une palette de possibilités d'effets spéciaux.
Et d'ailleurs, les effets spéciaux qui permettent de créer l'alien ne sont pas du tout révolutionnaires techniquement. C'est la mise en scène qui les magnifie. Mais techniquement, c'est un bonhomme dans un costume.
Là, et c'est ça qui est passionnant, c'est que
mais
en fait,
on le voit pas le bonhomme dans un costume. C'est ça qui est bien. Il y a qu'à la fin quand
il
est dans l'espace.
Mais
bien sûr,
mais c'est ça qui est passionnant, c'est que Ridley Scott ne veut pas en fait. Il est question donc d'un Cloumout de l'espace. Dans le scénario, l'espace il n'est pas spécifié. On ne sait pas exactement à quoi il ressemble. Et donc, il veut un Cloumout de l'espace, mais il n'est pas satisfait par les premières propositions qu'on lui fait. C'est Dan O'Bannon qui va le mettre en relation avec Giger, qu'il a rencontré, lui, sur le projet pharaonique de d'adaptation de Dune de Jodorowsky. Giger étant censé faire toute la partie qui était réservée aux Harkonnen, qui sont donc un peu les méchants visqueux de Dune. Et donc voilà, et donc Dan O'Bannon met le Necronomicon dans les mains de Scott, et dans le Necronomicon, dans le bouquin de Giger, si vous regardez, il y a vraiment les dessins qui sont les dessins préliminaires et qui représentent déjà quasiment la créature, les xénomorphes avant même qu'elle soit finalisée pour le cinéma. Mais bon, le problème, c'est que Scott trouve ça super, mais il voit encore un bonhomme dans un costume. Et il ne veut pas de bonhomme dans un costume. Donc il va recruter un acteur qui s'appelle Balaji Badejo, qui est un acteur éthiopien de 2m10, extrêmement filiforme, pour essayer d'adapter le costume à son corps et qu'il y ait un effet d'étrangeté. Mais quand il le met devant la caméra, ça ressemble encore malheureusement à un bonhomme dans un costume. Et il ne veut pas de ça. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que justement pour éviter cet effet-là, eh bien c'est là qu'il va changer sa mise en scène et qu'il va décider de cacher la créature, de la filmer soit de très près, soit dans le noir, soit de la planquer dans le décor, c'est-à-dire d'en faire un élément dont on ne saura jamais complètement exactement à quoi il ressemble, comment il se déplace. Je vous mets bien le défi, si vous n'avez jamais vu le film avant la scène finale où l'alien est expulsé dans l'espace, et je suis désolé pour le spoiler, de comprendre comment est foutu l'alien, à quoi il ressemble et comment il se déplace et combien de membres il a et quel est sa, et de le décimer à la fin, c'est quasiment impossible. C'est vraiment juste ce plan final que Ridley Scott déteste d'ailleurs, parce que à nouveau dans le plan final, il a l'impression de revoir ce qu'il a voulu éviter pendant tout le film. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en limitant les budgets des effets spéciaux, on finit par créer de la créativité et donc de la mise en scène et donc de faire finalement et de créer du cinéma, quoi.
Oui, et puis c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est complètement projectif. Chacun a sa représentation d'alien.
Morning. I am Meredith Vickers, and it's my job to make sure you do yours. On with the show.
These are images of archaeological digs all over the earth. Same pictogram, but every last one.
It's a star map.
No, an invitation.
Let's say I'm wrong, and you do find these beings down there. You'll do nothing but report back to me.
Prometheus, are you seeing this?
on them probes.
Picked up a life form.
What's that?
Everybody back on the ship now!
In cinemas June 7. Experience it in 3D.
Et on rejoint en ça, j'allais dire, un peu ce qu'a fait Lovecraft, qui ne faisait aucune description, c'était l'indicible peur, l'indicible monstre ou autre. Et on est exactement dans la même situation, alors qu'on est sur le plan de l'image et du cinéma.
Il y a évidemment du Lovecraft dans Alien, dans la nature même visqueuse, biomécanique de la créature, etc. Et comme le disait tout à l'heure Simon très justement, ce n'est pas tellement du hors-champ. C'est vraiment que la créature épouse complètement le décor et la caméra épouse le décor et la créature. C'est une forme là aussi d'imbrication à trois niveaux qui font que si vous avez, il y a des scènes absolument passionnantes et notamment il y a une scène merveilleuse. Les gens qui ont vu le film la reconnaîtront et ceux qui n'ont pas vu le film seront certainement surpris, qui est qu'à un moment donné, la caméra on est à la recherche d'ailleurs d'Alien, donc la tension est à son comble, la caméra se perd dans le décor, et en fait, en filmant le décor, à un moment donné, l'Alien est plein cadre. Mais plein cadre, sauf qu'il est au milieu du décor, de chaînes, etc.
Et
en fait,
si
on ne le sait pas, on ne le reconnaît pas, on ne le voit pas. Oui, et alors,
pour ma part, je ne suis pas intimement convaincu que Alien, alors contrairement aux travaux en général de Kicker, mais que Alien soit spécifiquement Lovecraftien. En revanche, il y a un aspect qui l'est fortement, c'est toute la séquence autour de la découverte de ce vaisseau abandonné, qui là peut éventuellement évoquer d'autres espaces, les grands anciens, quelque chose qui a été, qui demeure encore d'une certaine manière, dont on ne peut plus percevoir que les traces, que les restes, mais qui ne demeure finalement que le regard et la curiosité malheureuse de l'humain pour être réactivé.
Un peu comme toi, après une soirée, on n'en perçoit plus que les traces et les restes.
Puis, pendant aussi.
C'est règlement de compte avec le choral. Alors, on ne peut que conseiller de lire Alien, la xénographie. On peut aussi recommander de revoir les films. Et là, après, ça va être les querelles habituelles, savoir qui préfère quel film. Il faut commencer par Alien, le 8e passager, puis je crois qu'il faut les faire tous. On a une...
Ouais, moi, je pense qu'il faut commencer par Alien versus Predator Requiem, ce qui est vraiment de loin le meilleur de la série. C'est une blague.
Oui, j'avais compris.
Ou pas. À vous de savoir, il faut essayer pour le... Il faut savoir. Il faut le tenter pour le savoir.
Alors bon, oui, c'est vrai que j'ai fait l'impasse sur les Predators. De toute façon, en lisant Alien, la xénographie, vous découvrirez tous les détails. Vous découvrirez également tout ce qui peut avoir existé comme dérivé, c'est-à-dire les différents jeux, tout ce qui a été à disposition. Parce que c'est ça qui est intéressant avec Alien, c'est que ça a créé un univers véritable.
Oui, moi, je ne parlerai pas de dérivé. Hein, c'est bien ça qui constitue une mythologie populaire, en fait. C'est-à-dire que, outre les quatre films, tout un pan de la culture populaire s'empare d'Alien pour se l'approprier, pour créer des récits à l'intérieur. Ça va être les comics, ça va être les novelisations au premier chef, puis les comics, puis le jeu de rôle, puis les jeux vidéo. Hein. Il y a un nombre incalculable de jeux vidéo, il y a un excellent article de Guillaume Béchelier là-dessus. Donc, c'est vraiment ça qui en fait une mythologie populaire. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait OK avec le terme dérivé. C'est vraiment juste la continuation logique de l'implantation d'une mythologie très puissante dans l'imaginaire collectif et qui fait qu'à un moment donné, différents artistes s'en emparent pour se réapproprier cette mythologie, cette histoire, cet univers, etc., et sur différents supports. Donc c'est vraiment une contamination collective, en fait. Ça aurait pu être le sous-titre de la xénographie. Hein. C'est vraiment la contamination collective que cette mythologie et que cette créature, à partir d'un film absolument révolutionnaire qui a bouleversé, qui a fait, comme on l'a expliqué, vraiment renversé la table à plein d'égards, tant dans la narration de la science-fiction que dans la façon de la représenter au cinéma, que d'un seul coup, tout ça finit par envahir nos imaginaires et créer l'ensemble de ces items culturels qui sont hyper, hyper, enfin, encore une fois, des comics aliens, il y en a pléthore, des jeux vidéo, il y a même du Alien Pinball, il y a du très mauvais et de l'excellent, hein, il y a jusqu'à Alien Isolation, qui est sorti sur les consoles de génération précédente et qui est un magnifique insert entre le premier et le deuxième, où on joue Amanda Ripley à la recherche de sa mère après qu'elle a disparu dans le Nostromo. Bref, donc ce ne sont pas des dérivés, c'est vraiment au contraire les produits et le signe de la vigueur et de la puissance de cet imaginaire qui a été implanté dans nos esprits à travers et à partir du premier film de Ridley Scott.
Alors, j'aimerais bien qu'on dise un mot quand même à propos des novélisations d'Alien, parce qu'on a évoqué Lovecraft, on aurait pu parler de Frankenstein comme origine, enfin comme, lointains ancêtres d'Alien. Et puis, Nicolas Martin et Simon Rio, vous avez eu la chance de pouvoir interviewer Alan Dean Foster, qui a été en charge de justement novéliser les histoires d'Alien. Et on voit que c'était quelque chose d'assez compliqué quand même.
Alors pour Alan Dean Foster, effectivement, on a eu la chance de pouvoir l'interviewer. Et c'était, si vous voulez, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Pardon. C'est que quand Alien sort, et ça explique d'ailleurs beaucoup de choses, et Simon d'ailleurs l'explique très bien, je vais lui donner la parole dans quelques instants. Je dis ça pour le Réus qui est en train de faire une petite sieste.
Ah quoi ah, l'émission a commencé.
Qui êtes-vous? Ah, attends, s'il te plaît, d'accord. ce qui est intéressant, c'est que vraiment à l'époque, la science-fiction, bon, c'est ce truc pour des adolescents attardés, c'est de la niche, on s'en fout un peu. Donc les studios vont faire ça un peu par-dessus la jambe parce que ils se rendent pas bien compte de ce qu'ils sont en train de produire et de ce qu'ils sont en train de générer. Et c'est certainement parce qu'ils font ça un peu par-dessus la jambe qu'Alien tel qu'on l'a vu est possible en fait. Et donc Alan Foster il raconte que quand il fait la novélisation, on lui donne vaguement le scénario, mais il ne sait pas à quoi ressemble la créature. Il n'a aucun contact avec les Scots. On lui demande d'écrire ça en même temps parce que c'est pour faire du merchandising, c'est-à-dire avec zéro valeur. Et puis finalement, il va finir par retoucher son bouquin pour l'adapter au film et ensuite continuer à novéliser les films suivants. Mais on voit bien que c'est grâce aussi à ce statut un peu bâtard de la science-fiction et d'une espèce de laisser-aller des studios que ce film est rendu possible. Parce que si les studios étaient ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment sur les dents, sur le dos des réalisateurs, sur le dos des producteurs et à reprendre tout en montage et à vouloir avoir un final cut et que rien ne dépasse, eh bien Alien n'aurait certainement jamais existé. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est un peu ça que nous raconte Alan Foster, qui avait d'ailleurs eu des idées assez passionnantes, dont il n'a pas le droit de parler, malheureusement.
C'est dommage. Hein.
Quelques aperçus, quand même, de loin en loin. Mais voilà, et c'est Simon, réveille-toi, Simon, c'est à toi.
Oui, comme le disait Nicolas, il faut se garder de réécrire l'histoire et de voir dans Alien plus qu'un alignement de planètes. C'est-à-dire que ceux qui font le film ne se disent pas « Nous sommes partis pour révolutionner la science-fiction et nous voulons apporter un discours social, sociétal, radicalement différent. » On a un empilement de merveilleuses rencontres. Parce que d'un côté, on a Dan O'Bannon qui a été frustré par son expérience sur Dark Star, qui, grâce à son passage sur Dune, va rassembler des talents avec une certaine ambition. Puis on a Walter Hill, qui est producteur, mais qui va aussi travailler sur l'écriture, et qui est un tout jeune producteur. Alors, Walter Hill, même s'il faut se méfier des étiquettes trop totalisantes, c'est pas exactement ce qu'on appellera un gauchiste. Loin s'en faut. Sauf que Walter Hill, c'est un type qui a grandi dans une petite ville de la Rust Belt aux États-Unis, qui a grandi dans un milieu ouvrier très modeste, et que quand il va écrire un scénario de science-fiction, alors qu'il n'est pas du tout coutumier du genre, pour se raccrocher à tout ça, eh ben il va peupler ce scénario de personnages, d'archétypes qu'il connaît, c'est-à-dire des ouvriers, des routiers. Et donc, quand bien même il n'a pas pour but de faire une grande fiction gauchiste contre le capital, naturellement, il l'investit de cet imaginaire-là qui est le sien. Et puis, il y a Scott, qui certes est un clipper, qui certes est un pubard, mais qui a, on va dire, un bon fond de misanthropie, et qui, en bon britannique qu'il est, a un petit fond contestataire qui va bien. Et puis, comme on est allé chercher Giger, l'alien, ça va pas juste être un gloumout qui est vaguement inspiré de nos prédateurs terriens, mais ça va être cette créature sexualisée, sexualisante, violente. Et tous les étages de cette fusée vont aboutir à un alignement de planètes exceptionnel. Ajoutons à tout ça, comme on tourne largement en Grande-Bretagne, ce qu'on appelle les dailies, c'est-à-dire les rushs du jour, ne parviennent pas quotidiennement au studio, mais une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, et que tout simplement, cela va permettre également, parce que la Fox regarde d'un œil distrait Alien pour une raison toute simple, c'est un film de série B de luxe dans l'espace avec des monstres. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, il n'y a pas de motif de croire que le metteur en scène va transformer ça en œuvre transgressive. Il n'y a aucune raison que ça n'advienne. Et c'est précisément pour ça que ça peut advenir. Voilà. Ah.
Donc, en conclusion, lisez bien sûr Alien, la xénographie, c'est paru aux éditions ActuSF. C'est un excellent investissement. Vous allez apprendre plein de choses. C'est absolument passionnant. Il y a des approches psychanalytiques, il y a des approches politiques, il y a des approches de fiction. Il y a tellement de choses dedans que c'est un vrai bonheur. Merci en tout cas d'avoir géré ce livre de main de maître. Et puis, avant de se dire au revoir, on peut peut-être quand même évoquer les projets en cours, parce que j'ai cru entendre parler d'un livre en cours d'écriture, d'un film aussi qui se prépare, enfin, même de séries, de plein de choses, quoi.
Alors, vous êtes fort bien renseigné, camarade. Oui, tout à fait. Ça fait 4 ans et demi qu'on travaille sur un scénario avec Simon. Le projet est en pré-production, c'est bien avancé. Voilà, le film avance, on espère le tourner si tout va bien l'année prochaine. On travaille aussi sur quelques projets de séries fantastiques, de science-fiction avec différents producteurs. Et pour ma part, il m'arrive aussi de faire des choses seul et pas uniquement quand je vais aux toilettes. Non, on peut couper ça peut-être.
Nicolas peut faire un remake brutaliste de Mon curé chez les nudistes.
Non, c'est pas vrai du tout. Donc, il arrive aussi de faire des choses seul et je suis en train de terminer mon premier roman, qui devrait normalement, si tout va bien, sortir l'année prochaine.
SF
Exactement, tout à fait, science-fiction dystopique.
Non, OSEF.
C'est délicieux. Oh. C'est une image, hein. C'est pas au goût, parce qu'au goût, il c'est très fort, c'est un peu comme de la venaison. Mais avec du fromage corse.
Oh là, c'est explosif alors.
Ouais, c'est ça. C'est un feu d'artifice d'essence.
Eh bien, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour cette occasion qui promet d'être grandiose. Il y a déjà éventuellement un éditeur prévu, ça se... Non ?
Oui, c'est en cours, mais je n'en parle pas, donc rien n'est signé.
Bon, d'accord. En attendant, lisez Alien Xénographie, c'est donc Simon Rio, Nicolas Martin, c'est aux éditions ActuSF et c'est remarquable. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci infiniment à toi.
Merci beaucoup. Merci à toi.
Yeah.
sur Radio Libertaire, c'est toujours 89,4 MHz. C'était donc Nicolas Martin et Simon Rio qui nous parlaient d'Alien, la xénographie, parue aux éditions ActuSF. Je vous ai dit en préambule de cette émission qu'on aborderait un peu plus en détail le contenu de cet ouvrage. Alors, juste quelques éléments pour vous guider. Le livre comporte plusieurs parties, de nombreux contributeurs. La première partie s'intitule « Introduction l'œuf ». C'est l'ouverture du recueil avec un article de Nicolas Martin et Simon Rio qui évoque le fait que, c'est un peu ce qu'on a évoqué dans l'entretien, que Alien nous fait passer du sense of wonder au sense of horror. C'est comment Alien est venu révolutionner un petit peu ce cinéma de science-fiction en introduisant des éléments différents. Il y a également tout un article sur la chronologie. Et puis, il y a un quiz que je vous recommande de faire qui s'intitule « Connaissez-vous Alien ?». Ça, c'est pour le stade de l'œuf. Et puis, on va suivre donc l'évolution de la créature. Et après l'œuf, eh bien, c'est le facehugger. Si vous ne connaissez pas le facehugger, c'est cette créature qui va sauter au visage des personnages et s'accrocher à leur visage en introduisant donc une espèce de bras tentaculaire dans leur trachée. Voilà, ça c'est le deuxième stade de développement de l'alien. Et dans ce paragraphe, dans ce chapitre de l'ouvrage Alien la xénographie, on trouve des tas de choses absolument passionnantes avec beaucoup de choses. On y parle de la musique, on y parle de pourquoi il faut aimer Alien, ce qu'Alien a pu changer dans la vie. Troisième stade, après donc le facehugger, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment, on assiste à une scène absolument incroyable où le parasite sort de la poitrine d'un des personnages, et ça s'appelle le chest burster. Et cette partie du livre intitulée « Le chest burster » continue d'explorer Alien la saga en nous parlant des effets spéciaux, en faisant un article particulier consacré à un des opus d'Alien qui s'appelle « La résurrection », que certains avaient un peu moins apprécié, en évoquant bien sûr les suites, c'est-à-dire « Prometheus »,« Alien Covenant », et puis « Les vaisseaux », Sigourney Weaver et plein d'autres choses. Moi, il y a un article qui m'a touchée, qui était un article qui aborde l'opposition entre Alien et l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Autre partie du livre, eh bien, c'est le xénomorphe, l'univers étendu. C'est-à-dire qu'on va aborder la question des novélisations, on va aborder les comics, on va aborder la question des jeux qui ont pu être créés pour venir compléter l'univers d'Alien. Et puis ensuite, une partie intitulée « La reine, une contamination collective qui traite du visqueux en nous, de l'esprit féminin de la ruche, de savoir qui est le véritable monstre dans Alien, en abordant également donc les androïdes présents dans la saga. Également une étude passionnante exobiologique des xénomorphes. Enfin, plein de choses passionnantes, sachant que le dernier article de la partie s'intitule « Le vrai monstre est la machine capitaliste ». Et puis pour terminer, on a la colonie. Et la colonie, eh bien, ce sont 1, 2, 3, 4, 5 fictions avec des auteurs comme Chloé Delhomme, Catherine Dufour, Jean Barret, Grégoire Courtois et Nicolas Martin, donc qui se livrent à de superbes exercices de texte autour de la thématique d'Alien. Et c'est vraiment très très chouette à découvrir. Ça fait plaisir de lire d'aussi beaux textes. Donc vous voyez, c'est un ouvrage extrêmement précieux, avec des illustrations qui sont assez superbes. C'est un bel objet aussi. Donc je ne peux que vous recommander de lire Alien, la xénographie chez ActuSF, ouvrage réalisé par Nicolas Martin et Simon Rio.
La calandre est super enfoncée et la peinture a bien morflé. Le moteur gauche s'est fait la malle, on dirait. Dire ça à papa, au centre ils voudront plus de moi. Le rétro gauche est tout pété et les planitrons sont tombés. Oh putain. possible de leur démarrer. Oh là là, Goldorak est mort. C'est sûr, mon père, il va me tuer. Il faut que j'arrive à joindre Alcor. Je crois que le Delco est pété. Allez, des couilles, j'suis prince de fort. Je vais quand même pas me mettre à chialer. Je me revois bien sortir de la boîte. Après sur la petite route des boîtes, j'ai vu des boules et le lapin. J'ai lancé les fulgures au point. Pourtant c'était bien au Xénon. Vénusia était trop canon. Elle s'est cassée avec Bioman. Et maintenant je me prends un platane. Et voilà Goldorak qui est mort. Impossible de leur démarrer. Et ben ouais, Goldorak qui est mort. C'est sûr, mon père, il va me tuer. Comment je m'ai mangé le rebord et le rail de sécurité. Sans texte, je préférais être mort. Au contrôle technique, là, c'est râpé. Madame, pardon de vous déranger. Est-ce que je pourrais téléphoner? Ouais, ouais, je suis habillé marron. Pour le Japon, je fais 0-1 devant. Allô, papa, j'ai un pépin. Je suis entre Terrier et Amiens. Ouais, ouais, je sais, j'ai pas pris mon portable. Ah, ok, il est sur la table, écoute. Écoute, papa, il faut que je te dise. Oui, je sais, j'ai pas pris ma carte grise. Bon, y'a des trucs plus importants. Putain, c'est mon passeport, maman. Quoi, j'ai jamais eu de maman. Mais tu me l'avais pas dit avant. Je croyais que tu me cachais ma mère. Parce que c'était. Et voilà Goldorak qui mort. Impossible de leur démarrer. Et ben oui, Goldorak qui mort. Il te reste du câble à remorquer. C'est bon, me traite pas de tête de mort. Je sais c'est cher pour réparer. Faut demander des pièces à Albator. Et il fait raquer l'enculé.
Et voilà, c'est la fin de cette émission, la fin de cette année d'idéaux et débats. On va se retrouver bien sûr à la rentrée au mois de janvier. Et le premier rendez-vous que je vous propose sera donc le 3 janvier, où nous parlerons d'un sujet complètement différent, puisqu'on parlera de Romain Gary, avec un auteur qui lui consacre une trilogie. Il s'agit de Kerwin Spear, qui nous revient là avec le deuxième volet de sa trilogie, et qui nous proposera de découvrir donc ce personnage de Romain Gary. Enfin, découvrir, c'est un bien grand mot, parce que nous aborderons avec lui le fait que c'est un personnage multiple, que c'est un caméléon et qu'il est assez insaisissable. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne fin d'année, restez à l'écoute de Radio Libertaire et on se retrouve donc le 3 janvier pour parler de Romain Gary et dans les émissions ultérieures pour parler de cette rentrée littéraire de janvier. Il y a des choses bien, il y a David Thomas avec un recueil de nouvelles, il y aura Chantal Pelletier avec un très beau livre où il est question de cinéma, mais pas que, enfin vraiment des choses passionnantes. See you soon.
Roi du libertaire.
Conscrit qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète.